Bon, on va reprendre parce qu'on a vu quand même déjà depuis ce matin que les discussions sont assez riches et les points de vue et les points de vue divers, puisque un des buts avoués de cette journée est de la réflexion autour de la construction d'un manuel. Et en fait, on va vous l'avouer, ça nous fait beaucoup plaisir de vous avoir parce qu'on a besoin de discuter, on a besoin de réfléchir. Et finalement, on a besoin de faire le point avec finalement la communauté et les gens en demande de cet ouvrage statistique. Parce que plein de questions se posent. On l'a vu avec le point de vue universitaire, on l'a vu avec le point de vue de la formation continue avec les collègues de l'INRAP, on l'a vu là à l'instant là, sur la construction même éditoriale d'un ouvrage. Donc il y a plein de choses qui se mélangent. Et donc finalement, la première question, c'est on veut écrire pour qui ? Pourquoi et comment ? Donc déjà, Stéphanie vous l'a dit, dans le cadre du groupe de travail, on a déjà beaucoup, beaucoup réfléchi, puisque si on a convoqué cette journée, c'est que les collègues nous avaient fait remonter cette demande du besoin, de la demande de l'outil statistique. Mais alors maintenant, la question, c'est que si on parle à des étudiants de licence, si on parle à des collègues, si on parle à des doctorants, si on parle à des communautés différentes qui parlent peut-être du même objet, mais qui sont de disciplines différentes, on ne va pas pouvoir aborder les choses de la même manière. Donc voilà, donc on va essayer à travers vos expériences, à travers les commentaires qu'on a eus depuis ce matin, essayer d'avancer un petit peu sur ce questionnement, en sachant que les auteurs potentiels de cet ouvrage finalement travailleront aussi demain sur les réflexions qu'on pourra avoir ensemble aujourd'hui. Donc peut-être pour lancer un petit peu le débat, on a donc donné la parole aux intervenants. Peut-être des réactions au niveau de la salle sur finalement l'envie, la question, l'outil, la cible d'un ouvrage potentiel en archéologie appliquée aux statistiques ou aux statistiques appliquées à l'archéologie. Voilà. Ouais. Non, la digestion est finie. J'ai un numéro de claquette si ça se passe mal. Mais bon. Non, mais si. Il y a peut-être. Après, je parle.
Peut-être la première chose serait de savoir quel est le public visé, ce qui nous semble être peut-être le périmètre d'avoir un objet de recherche, un outil, disons, comme un outil statistique, c'est déjà de se poser la question pour qui il est envisagé. On peut savoir si c'est comment, en fonction des interventions qu'on a pu avoir ce matin, cet après-midi. Il y a un public de professionnels de l'archéologie, je pense, parce que Sylvain et Anne nous ont présenté, mais aussi un public d'étudiants plus ou moins avancés, et savoir si quel est celui qui sera privilégié, parce que c'est plutôt des étudiants avancés niveau master qui correspondraient peut-être à des gens qui sont dans des instituts d'archéologie, et ce qui permettrait d'avoir un périmètre à un certain niveau, ou est-ce que ce sont des étudiants beaucoup plus jeunes, ce qui semble peut-être moins en phase avec l'INRAP par exemple. Enfin, je lance le débat, hein, je sais pas.
Moi, je peux peut-être déjà faire une première action. C'est-à-dire que moi, j'enseigne les statistiques à l'Université de Bordeaux-Montaigne en licence 3 et un petit peu en master. Et c'est vrai que dans ma pratique pédagogique, et j'ai vécu un petit peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'à un moment, si j'avais besoin de conseiller un ouvrage en langue française de statistiques avec une quantité importante de données archéologiques, j'en avais pas. Et ça, c'est un état de fait. Il y avait bien le livre de Chénorquian qui existe, mais qui est finalement daté et qui est finalement très, très hétérogène dans son contenu. Il y a des choses très intéressantes sur la statistique inférentielle, mais sur la représentation graphique des données, c'est un petit peu désuet. Donc on n'avait pas d'outils actuels à proposer aux étudiants. Après, bon, j'ai réussi un peu à contrer les choses. Il y a des ouvrages... en langue anglaise qui sont intéressantes. Il y a le Drennan Statistic for Archaeology qui est très bien. On trouve des ouvrages. Mais déjà, je veux dire qu'en tant qu'enseignant, donc dans une licence d'histoire de l'art et archéologie, où finalement la plupart des étudiants ont signé ici pour ne plus jamais entendre parler de chiffres. Mais même s'ils se trompent complètement, c'est pas la question. Mais de dire qu'on a c'est un enjeu pédagogique. Si en plus on leur met une couche de dire que si je dois vous proposer pour que vous puissiez survivre à mes cours une bibliographie en langue anglaise, double peine. Mais on est un peu parti comme ça sous la forme de boutade en discussion. C'est qu'on n'avait pas de support à proposer à nos étudiants. Voilà. Et après, on a vu que cette question-là, elle dépassait même le cadre de nos étudiants. Et on l'a vu, c'est-à-dire les doctorants, les collègues, voilà. Et que finalement, toutes ces questions intéressaient. Donc, le point de départ, c'était le manque. C'était le manque. J'avais pas un ouvrage de statistiques, un handbook à proposer aux étudiants. Mais juste avant... Au début, on n'était pas tous d'accord. Je parle à mon ami Serge qui dit « Mais on ne va pas réinventer un livre de stats. S'ils veulent se former, ils ont qu'à aller à la bibliothèque et prendre un livre de statistiques. » Mais oui, mais c'était pas... Il y avait la question de la psychologie de l'étudiant. C'est-à-dire que vraiment... Et c'est ça qui a justifié de se dire « Peut-être que l'on pourrait partir de l'exemple. » Leur montrer, finalement, on va travailler sur les données. Essayer de cultiver l'intérêt. Et voilà.
Et toutes nos discussions, nous, sont parties de là.
Peut-être, comment t'es venu à nous proposer ça en tant que...
Qu'est-ce que tu leur enseignes en L3 et en M1?
Alors justement, j'ai toujours construit mes cours en partant de l'exemple. Alors, j'ai des jeux de données issus d'articles, des jeux de données issus de bases de données archéologiques. Et la question, c'est que finalement, on est face à ces jeux de données et comment on peut extraire une information de ces jeux de données. Et à travers ce jeu de données, je reconstruis un discours pour présenter rapidement, en licence, surtout de la statistique descriptive et un tout petit peu de statistique inférentielle. Mais je pars de l'exemple. C'est une genre de pédagogie inversée. Voilà. C'est que finalement, ils ont, même et souvent, l'exercice que moi je demande, après, j'ai 30 heures de statistique en L3. Ce que je demande à mes étudiants sur le semestre, c'est d'aller chercher soit sur les fouilles qu'ils réalisent, soit sur une base de données qu'ils ont extraite. C'est-à-dire qu'on va travailler sur leurs fichiers. Et ça va être leur note à la fin. Moi, au cours des TD, je vais leur donner les outils. On va travailler sur des exercices pour qu'ils puissent comprendre les limites de tous les petits outils que je mets à leur disposition. Mais voilà, c'est d'abord, j'ai mon jeu de données. J'ai envie de le faire parler. J'ai envie de révéler l'invisible. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place? Voilà, c'est une opération de dédramatisation des statistiques.
Même sans dédramatisation.
Mais c'est un peu ça pour eux.
Non, pas forcément, parce que ça va même pas être. C'est ma façon de fonctionner aussi en master ingénierie mathématique. C'est que je pense que, enfin, de manière pédagogique, si on veut faire comprendre les données, les problèmes qu'on peut rencontrer dans des données, faire que le fil directeur de toutes les méthodes qu'on voit, ça soit un jeu de données, avec peut-être plusieurs problématiques associées à un même jeu de données, enfin, c'est bon. Sauf que ça peut se faire dans le cadre d'un cours, mais dans le cadre d'un ouvrage, ça peut être plus compliqué. Donc, voilà. Et en master 1, qu'est-ce que tu leur enseignes comme...
Alors, en Master 1, les statistiques que je réalise sont faites dans le cadre de mon cours. J'ai un cours sur la provenance des matériaux. Et j'essaye de montrer comment des outils statistiques peuvent nous aider à répondre à des questions de provenance. Alors, typiquement, soit des analyses factorielles, des analyses discriminantes, de la statistique descriptive. Donc, c'est sûr, les jeux de données, alors ce soit la caractérisation géochimique, ça peut être des signatures géochimiques de roches volcaniques, voilà, plutôt des données de composition. Voilà, très peu de données qualitatives.
Moi, c'était juste pour compléter mon introduction, pour dire aussi que on a parlé d'interdisciplinarité. Un ouvrage, c'est aussi collectif, c'est aussi un aboutissement de formuler un certain nombre de choses. Alors ça peut être assez unique. L'idée, effectivement, étant pas de refaire un ouvrage de STAP, mais bien quelque chose produit par un collectif qui a l'habitude de travailler en interdisciplinaire.
Et puis, et de ce sens, on a beaucoup de chance, puisque l'archéométrie, si vous me permettez le jeu de mots, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu l'archétype de la transdisciplinarité. C'est-à-dire que, par définition, la pratique de notre travail, elle est interdisciplinaire. C'est-à-dire que,
par définition, mais il n'y a pas beaucoup de bouquins de stats qui sont écrits
ouais.
C'est ce que je voulais rappeler, c'est qu'un des publics visés aussi, c'est un public interdisciplinaire. Et c'est justement une des idées qui a émergé aussi, sur lesquelles on a beaucoup discuté, c'est qu'à un moment donné, il fallait réussir à établir un dialogue entre des gens qui utilisaient des outils stats, mais qui partaient de disciplines plutôt archéologiques, historiques, etc., et des statisticiens qui venaient aux problématiques archéologiques et dont il ne faut pas non plus minorer l'effort, parce que ça demande quand même un réel effort pour bien comprendre les concepts, les objets qui sont mobilisés, etc. Et puis si on veut que effectivement le statisticien puisse accompagner une équipe de recherche et travailler avec, il faut bien qu'elle comprenne elle aussi les enjeux et les objets. Et donc effectivement ça a été un des points importants de la discussion. Et c'est pour ça que je pense que par rapport au public visé, mais ça n'engage que moi, c'est mon avis, je pense que clairement ce type de manuel là ne peut pas s'adresser à des niveaux trop initiaux. Il faut quand même avoir déjà des gens qui ont une certaine expérience de leur propre discipline pour pouvoir rentrer dans le, comment dire, dans le sujet, quoi. Et je dirais que voilà, c'est à partir du moment où les gens vont commencer à travailler sur leurs problématiques de recherche en master, etc., qu'on va pouvoir rentrer dans ce type de... Enfin, moi, personnellement, je pense que viser en dessous, ce serait, dans ce type d'objectif-là, ça serait compliqué, quoi. Plus que compliqué, me semble-t-il. Non, Hélène, tu crois pas ?
En fin de licence 3, tu vois, c'est bien. Je veux dire, des étudiants qui sont en fin de licence...
Pour rebondir sur ce que tu disais, Laure... De toute façon, on a vu quand même qu'à travers les interventions, un point clé hein, pour répondre aux attentes de la communauté et surtout pour que ce manuel soit intéressant, c'est quand même la question de la sensibilisation, donc de l'intérêt porté par les gens qui cherchent effectivement à utiliser les outils statistiques. Donc viser effectivement un public qui soit en formation, mais pas déjà impliqué peut-être dans la problématique en sciences archéologiques, avec un petit projet de recherche, avec des données à disposition qu'il serait même capable de traiter, je pense que c'est compliqué, voire ça répond en fait à une autre demande, et en tout cas le manuel ne serait pas construit de la même manière, tout simplement. Et peut-être juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, François-Xavier, c'est vrai que l'entrée par l'exemple archéologique, en fait, c'est vraiment plus pour préciser, c'était pas seulement pour intéresser le public, mais l'idée c'était ne pas forcément proposer une seule entrée, mais bien rappeler que les deux entrées, hein, archéologie, enfin problématique en fait en sciences archéologiques, bien définie, avec une entrée en statistique pour faire effectivement communiquer et dialoguer les deux disciplines. Donc voilà, mais effectivement, ça serait, je pense, un autre travail que de cibler des étudiants qui ne soient pas déjà impliqués dans les sciences archéologiques.
Enfin, licence, c'est ça, licence 3, master.
Mais je pense qu'au-delà de ça, effectivement, il y a ce que cherche chacun pour aller vers l'autre discipline, mais il y a aussi ce qui doit être à un moment donné pris en compte et mis en valeur dans le manuel. Alors, c'est là-dessus qu'il faut vraiment bien réfléchir. C'est finalement quelle est la plus-value de ce dialogue interdisciplinaire dans l'utilisation des outils. C'est pas juste on s'auto-forme et puis c'est super, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est quelle est la plus-value qu'on va avoir en termes de, justement de connaissances, de développement de méthodologies mieux appropriées, peut-être plus performantes, même si au départ elles sont fondées sur des outils simples. Bon, parce qu'on peut avoir des démarches assez complexes à partir d'outils, d'une série d'outils qui ne sont pas forcément très complexes en soi. Et inversement, mettre en place un modèle assez complexe à partir de données qui ne sont pas extrêmement complexes d'un point de vue archéologique, quoi. Donc après, c'est...
Alors, c'était juste pour dire que quand tu disais que ça devait intéresser des statisticiens, je pense qu'il ne faut pas rêver. Le livre tel qu'il sera conçu, je ne pense pas qu'il intéresse beaucoup les statisticiens. Le public visé sera beaucoup plus des archéologues qui ont besoin de se former en statistique que des statisticiens qui veulent travailler. Je pense qu'il faut être réaliste aussi à ce niveau-là. Il faut vraiment viser le public, mais le public des statisticiens, bon, je le sens très minoritaire.
Alors, moi personnellement, j'ai l'espoir inverse parce que sinon j'arrête de. Parce que c'est mon public.
Mais statisticien ?
Moi je suis statisticien. Je pense que. Il faut aussi réussir dans ce manuel, et c'est aussi une partie, et on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se fixer des objectifs faciles, et je crois que là, malheureusement, on en a trouvé un bien dur. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ces questions, on les pose dans un cadre... j'ai entendu parler de thématicien, moi je ne connaissais pas ce mot il y a encore une demi-journée.
Tu ne fais pas interdisciplinaire avec les sciences humaines.
Donc... Les questions qui sont posées dans ces cadres-là, et moi c'est ce que j'ai vu dans la pratique, sont des questions qui, quand on s'y attache de façon un peu approfondie, on réalise que ça pose des questions de stats. C'est-à-dire que typiquement, effectivement, quand on utilise une méthode, quelle distance, on a parlé par exemple dans l'exemple précédent, on a dit qu'il y avait quelques outils simples, qu'on pouvait les appliquer et que une grosse partie du travail interdisciplinaire, c'était dans l'interprétation. Et ben, je pense qu'il y a une première étape qui est de poser le problème de façon interdisciplinaire. Et quand on pose le problème de façon interdisciplinaire, par l'apport et la discussion, on se rend compte que le formalisme qu'on a n'est pas forcément totalement adapté. Ça veut dire qu'on doit l'enrichir du point de vue du statisticien. On pose une question et tu as besoin d'enrichir ton formalisme pour pouvoir répondre correctement, avec une certaine forme d'optimalité à la question.
Oui, je suis d'accord.
Alors,
les statisticiens qui sont à la base intéressés par l'archéologie.
Je pense qu'avec un peu de chance, ce livre n'intéressera sûrement pas les étudiants statisticiens, dans la mesure où de manière ils seront dans leur apprentissage de statistique et ils auront d'autres livres beaucoup plus théoriques. J'ai l'espoir que ça puisse intéresser des chercheurs ou des praticiens de statistique déjà formés pour s'ouvrir un petit peu à d'autres problématiques, à d'autres formes de statistiques, à d'autres types de problèmes que ceux qu'ils voient régulièrement. C'est un espoir, après on verra bien si on y arrive ou pas. Mais je pense que... Mais on ne peut pas... La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire cette économie-là, parce que sinon, il n'y aura pas de statisticien dans le livre. Enfin, moi, c'est mon domaine, les statistiques. Si je n'y trouve pas à me nourrir en l'écrivant, je ne l'écris pas. Et il y a 3-4 collègues qu'on a essayé d'attirer. Si on n'arrive pas à leur trouver de la nourriture intellectuelle dans l'écriture du livre... on va pas y arriver, quoi.
Mais dans ces cas-là, on n'écrit plus un ouvrage pour un public de niveau L3, master ou professionnel de l'archéologie. Donc c'est ce que je dis, là on est en train de faire un grand écart. Donc soit il faut faire 2 tomes, et ça je suis entièrement d'accord, mais il y a un tome 1 qui est prérequis en statistique pour les archéologues, et là on parle à peu près tous le même langage, et dans le tome 2, il y a en fait... Des belles applications qui peuvent, avec des problèmes ouverts en statistique, des mélanges, vraiment de l'interdisciplinarité à haut niveau entre archéologues et statisticiens. Je ne sais pas, mais
Non, c'était juste à l'occasion, quand ça reviendra, si tu peux exemplifier ce que tu... qu'est-ce que ce serait un exemple de quelque chose qui te nourrirait et quelque chose qui te nourrirait pas.
Je vais prendre l'exemple qui est juste dans mon dos là. C'est pas l'exemple dans mon dos, mais l'exemple est en collaboration avec Stéphanie il y a quelques années maintenant, où il y avait une problématique de provenance, d'accord ? Et là, typiquement, on n'était pas dans l'interprétation. La problématique, ça a été de trouver quelle est la distance la plus appropriée étant donné la nature du signal qu'ils ont en composition. Comment, à partir d'une... Qu'est-ce qui va le mieux traduire mathématiquement une proximité de composition ? D'accord ? C'est pas un problème mathématiquement qui est très compliqué. Hein. Enfin, on a trouvé quelque chose de simple qui marche. Il est sans doute pas optimal, mais il marche. Mais il faut le poser comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a ce travail qui est préalable. Parce qu'après, une fois qu'on a la bonne distance, à la limite, effectivement, qu'on fasse, en l'occurrence, de mémoire, c'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire, tu avais fait d'ailleurs de la classification hiérarchique et puis un petit peu d'analyse discriminante avec une idée qui était derrière, qui était en fait de voir si deux domaines étaient séparables et donc on utilisait l'analyse linéaire discriminante comme une façon simple en dimension intermédiaire de voir si deux nuages de points sont séparables par un hyperplan, quoi. Enfin, un truc simple. La majorité du travail a consisté à trouver comment poser le problème mathématiquement. Quelles étaient les features, enfin, quelles étaient les valeurs qu'on rentrait dans ces algorithmes qui sont tarte à la crème, on va dire. Et ça, je pense qu'il n'y a pas... on n'a pas eu de commentaire quand l'article a été posé. Je ne crois pas qu'on ait eu un commentaire sur la nature extrêmement compliquée du calcul mathématique qui était posé pour essayer de traduire ce que des physico-chimistes du métal connaissent bien en équation, dans une distance, dans une métrique qui permette d'appliquer tout ce qui s'applique bien quand on a une bonne métrique, quoi.
Ça, c'est une démarche.
Par exemple, dans le chapitre classification,
les types
de distances qu'on peut utiliser
tout à fait.
Qui sont pas vraiment classiques.
Tout à fait. Mais j'ai pas dit le contraire.
Donc, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas dans une liste d'outils. Tout ça, c'est déjà fait, c'est refait. Mais c'est plutôt comment questionner les données et comment ces questions se traduisent du point de vue statistique, informatique, enfin, tout ce qu'on veut, et qui font que ça, la démarche va être originale. Je crois. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi que c'est là-dessus que c'est intéressant de travailler entre thématicien et statisticien.
Mais peut-être en n'oubliant pas de présenter les méthodes classiques.
Ça va être une tombe, c'est une table linéaire pour l'instant. Rectiligne, ouais, c'est une table rectiligne avec.
J'ai une certaine utilité dans le.
Unité électrique écosystémique.
Distance aussi.
Distance, voilà, on va faire. C'est pas isotrope. Non, mais je pense que l'important là-dedans, c'est la démarche. Mais même de cet aspect-là, je pense que quelqu'un qui commence à être bien formé en statistique, ça peut être intéressant pour lui d'apprendre que tout n'est pas dans la méthode, mais aussi d'être capable de s'approprier la sémantique de la personne avec qui il travaille. Et ça, c'est pas... Enfin, si tu veux, moi, j'ai vu des... Alors, j'ai une autre expérience en tant que conjoint de quelqu'un qui a fait des sciences du langage et ils étaient dans un labo où ils donnaient leur valeur à un ingénieur qui leur redonnait les statistiques. Et puis, il avait une moulinette, il détournait toujours la même moulinette et en fait, je nommerai personne parce que c'est pas très enrichissant parce qu'en fait, la moulinette, elle était bien, la distance était toujours la même. Donc, quelle que soit la question, il utilisait exactement la même distance. Quelle que soit la nature, est-ce que c'était un espace homogène, hétérogène, etc. C'est toujours pareil. Donc effectivement, il y a un moment où il faut aussi que le statisticien, ou en tout cas certains statisticiens, apprennent à prendre en compte la réalité du terrain, des données qu'on leur donne, quoi. Et c'est aussi un apprentissage. Et je pense que ça peut donner à voir ça, par rapport à un manuel de statistique qui partirait typiquement d'applications multivariées homogènes, où effectivement, on fait typiquement une ACP centrée normalisée, enfin standard réduite, et puis ça marche très bien, quoi. Y a des cas où il faut pouvoir se ramener à cette méthode classique, mais c'est un travail de s'y ramener. Et je pense que c'est ça ce que ça peut donner à voir pour des personnes, des statisticiens, praticiens, master, etc., un peu formés. Ça peut être intéressant.
Et
Et c'est des applications qui, au demeurant, sont... Enfin, il y a plein d'applications sympathiques à la statistique. Enfin, je veux dire, on regorge de trucs qui peuvent parler, entre guillemets, enfin, pour faire bling-bling, quoi. Enfin, mais des problématiques de provenance, de ça, enfin, c'est des choses qui sont suffisamment porteuses du point de vue culture générale pour pouvoir permettre aussi de transférer ce genre de compétences ou d'intérêts.
Juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit au début sur le fait qu'effectivement c'est d'apprendre aussi à comment questionner les données ensemble, et ça je suis complètement d'accord avec toi, mais quand on disait tout à l'heure partir par la fin, c'est une manière d'entrer assez rapidement dans le sujet, ce qui permet justement, parce que quand tu travailles sur l'interprétation, c'est là que tu vas resoulever tous les problèmes et les questionnements qui vont se poser, et du coup tu peux redémarrer ensuite sur les justement sur ces questionnements qui au départ peuvent quand tu rentres dans les questions directement, le temps que le dialogue s'établisse, puis que chacun se représente bien ce que ça va signifier dans chacun de ses dimensions, c'est pas toujours évident. Alors que quand tu travailles déjà, tu prends le problème à l'envers, si j'ose dire, mais du coup sur quelque chose qui n'est pas forcément bon et satisfaisant, tu vas pointer du doigt un certain nombre de problèmes, et du coup tu vas pouvoir rétablir cette discussion assez, de manière un peu plus efficace, quoi. C'était plutôt ça le sens de la proposition et de la discussion que j'avais lancée, quoi. Pas forcément en disant il n'y a que là que le dialogue interdisciplinaire se fait. Le dialogue interdisciplinaire, il se fait à tous les niveaux, y compris, je pense, dans la manipulation à un moment donné des outils. Parce que moi, j'ai coutume de dire que, voilà, même si t'es pas statisticien, même machin, si à un moment donné, tu veux discuter avec la personne, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et inversement, c'est-à-dire que si tu veux bien comprendre la sémantique, les objets, etc., y a un moment donné, un petit tour sur le terrain, ça fait de mal à personne non plus. Et ça permet, des fois, de prendre la mesure des choses. Je vais prendre un exemple tout bête, hein. On a quand même travaillé pendant un certain nombre d'années avec quelqu'un qui est quand même très connu, qui s'appelle Denis Puma, et qui a travaillé sur les données archéologiques, etc. On a eu des discussions dans Transmondine, et en fait, on est allé sur le terrain voir ce qu'on avait comme données de prospection très tard. Et là, elle m'a dit, mais j'aurais jamais imaginé que vous travaillez, enfin voilà, à partir de ça, quoi. Et du coup, il y a plein de choses qui sont clarifiées. Parce que voilà, ça, elle l'avait jamais vu. Et c'est important, je veux dire, ce dialogue-là, il se fait dans les deux sens. Et des fois, il n'y a pas besoin d'avoir... Enfin, je veux dire, c'est des petites choses, parce qu'effectivement, emmener quelqu'un juste sur le terrain pour montrer ce que c'est qu'un site de prospection, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis du coup, ça permet de bien se rendre compte des problèmes, effectivement, qui se posent, et des concepts, du coup, qui sont utilisés et qui sont mobilisés par la personne, et ce qu'elle ne veut pas faire quand on lui dit bah non, mais tu vas mettre tes données comme ça là, bah non, je veux pas comme ça parce que ça va pas fonctionner. Et c'est pas facile parce que c'est une représentation. Donc de la même manière que c'est difficile pour le statisticien, il visualise aussi d'une certaine manière ses outils, la batterie d'outils et de méthodes qu'il utilise. Il les visualise quand même, je veux dire, quand il les manipule, etc. Et ça, je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a besoin de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Il ne s'agit pas de devenir statisticien ni de devenir archéologue. Il s'agit juste de pouvoir établir le dialogue comme il faut, quoi.
Oui, et puis moi je vais dans ce sens, parce que construire cet objet un peu conceptuel, parce que c'est un genre d'hybride, là. Peut-être qu'on fantasme et on n'y arrivera pas, mais en tout cas je veux croire qu'on y arrivera, parce que cet objet-là, il peut cultiver l'envie, parce que je reviens encore au problème de la formation, je suis monomaniaque, mais le but c'est aussi de cultiver l'envie, l'envie de s'investir, l'envie de se poser des questions, c'est-à-dire que si je fais de la datation, de dire je vais pouvoir rentrer dans le livre en datation. Si je travaille sur du métal, je vais pouvoir rentrer je crois que cet objet à double entrée, je pense, voilà, ça peut être un outil de motivation, de cultiver l'envie de découvrir l'outil, mais de découvrir l'outil non pas par l'outil mais par ce qu'il peut te proposer. Je suis pas très clair, mais
si
aussi. Après, il faut trouver les entrées, parce que quand on dit voilà, le métal d'un côté, la datation de l'autre, mais le métal, c'est aussi la datation.
Exactement.
C'est construire une architecture qui permette d'avoir des entrées aussi. Surtout pour les archéologues quand même, il faut quand même, enfin moi je reste quand même persuadé que ce sera surtout pour les archéologues. Je pense que les statisticiens ont un niveau, ils ont le niveau demandé aux statisticiens pour les archéologues. Je pense pas que ce soit quelque chose de symétrique ou de réciproque d'une discipline par rapport à l'autre. Mais c'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe.
Oui, en fait, moi c'était plus que dans les grands thèmes. Je me dis qu'on demande beaucoup, quoi. Là, par exemple, si on parle de datation, Philippe a aussi fait un article sur le Bayésien. Et c'est quoi les prérequis en statistique? Soit on fait juste des courbes et puis on est content. C'est un logiciel presse-bouton, c'est une boîte noire. Je sais pas, il faut faire attention peut-être, mais c'est peut-être trop rigoureux.
Tu donnes des cours, tu donnes des prérequis en même
temps.
Et est-ce qu'un support comme le livre qu'on souhaite proposer pourrait t'aider dans la construction de ton cours en fait?
Bah, je donne des cours en L3 et en L1. Donc de base. Oui, je donne des cours en L3 et en L1. Donc en L3, c'est des stats descriptives univariées, bivariées, donc de base. Et en M1, je concentre sur l'application des stats à la datation. Donc en fait, je mobilise en M1 tout ce qu'ils ont appris sur les notions de moyenne, de variance, d'intervalle de confiance, de distribution, pour comprendre ce qu'est une distribution de date dans une calibration C14, ce qu'est une analyse bayésienne. Le bayésien, je l'introduis, je dirais, de façon empirique avec les tableaux bivariés, donc en statistique descriptive, où je leur montre que voilà les relations qu'il y a entre les différentes fréquences marginales, conditionnelles, jointes. Donc je les sensibilise à ça, mais ils voient concrètement avec le logiciel de modélisation comment ça s'est mis en œuvre. Donc voilà, c'est progressif. Donc ils ont une application concrète d'outils statistiques que je leur montre l'année d'avant. C'est très simple, hein. Enfin, oui, voilà. Alors pour en revenir au bouquin et à ta préoccupation, la double entrée c'est bien, mais j'ai peur que ce soit deux bouquins dans le même. J'aurais plutôt tendance à te dire, jouons le jeu carrément, on rentre par l'archéologie et on détaille tout ce dont on a, tout ce à quoi on pense, important en archéologie. Et on montre comment on mobilise des outils pour résoudre les questions archéologiques. Et par exemple, je vais prendre un exemple simple en datation. Quand on combine des âges C14, il ne faut pas penser qu'il suffit de faire la moyenne arithmétique des âges et la moyenne arithmétique des écarts-types, des erreurs sur les âges, pour faire la combinaison avant calibration. Donc il y a quand même un petit calcul de moyenne qui est spécifique. Et évidemment, on peut rentrer dans un logiciel comme Oxcal ou comme ChronoModel où on va faire la combinaison. Il y a un bouton qui s'appelle combinaison. On rentre nos âges et puis ça combine et ça calibre. Maintenant, le bouquin peut expliquer ce mécanisme-là, parce que sinon, il faut aller chercher dans la littérature. Très compliqué, il n'y a pratiquement pas de bouquin qui est, ou alors sur les sites des différents laboratoires de C14, et encore, il faut chercher l'info, hein, pour savoir comment se fait le calcul. Or, c'est un calcul qu'on peut faire à la calculette avec les étudiants. Une fois qu'ils l'ont vu, ils comprennent ce que c'est qu'une moyenne arithmétique pondérée par l'inverse des erreurs, ils savent ce que c'est qu'une moyenne harmonique, parce qu'il faut faire une moyenne harmonique sur les erreurs, et ainsi de suite, pour avoir une erreur moyenne. Tu vois, donc, on pourrait ensuite avancer après, faire des encarts, je ne sais pas quelle structure il faut trouver, pour dire, il y a plein de moyennes. J'ai parlé de ça avec Pierre tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, en luminescence, on fait des modèles d'âge central, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un âge central? En fait, c'est une moyenne, mais qui a des hypothèses particulières. Donc c'est aussi, pour moi, une façon d'expliquer des choses que les étudiants ou les professionnels liront dans la littérature. C'est aussi ça peut être aider à comprendre Cet outil-là, comment il fonctionne finalement, ou en tout cas, où aller chercher l'info. Parce qu'on donnera peut-être des formules mathématiques, on donnera sûrement des formules mathématiques pour expliquer les choses, mais on donnera aussi des logiciels, des sites web, etc., où on peut faire les choses. Moi, je vois ça comme ça. C'est vrai qu'on a réfléchi ensemble. Alors là, je donne mon point de vue. On a réfléchi ensemble et on a séparé les choses avec deux entrées, je dirais deux grands chapitres. Hein. Il y en a quatre. On verra demain. Mais une entrée outil, une entrée archéo. Je pense qu'il faut fusionner les deux. J'aurais tendance à penser ça. Vraiment. Sinon, ça fait deux bouquins. Voilà.
Bon, moi, je suis pas du tout de ton avis, mais bon, allez-y.
Oui, je donne mon avis. Voilà, à discuter.
Non, c'est bien, tout à fait.
Je me permets d'intervenir. Tu as parlé, Laure, tout à l'heure de, oui, de plus-value. La plus-value, c'est l'élément essentiel d'un nouvel ouvrage, évidemment. Donc, peut-être qu'il faut qu'on essaye de définir ce qu'on espère comme plus-value. Effectivement, qu'on rentre dans les thématiques de l'autre, ça me paraît absolument essentiel. Enfin, de l'autre, c'est-à-dire... Au sein de l'archéologie, il y a différents spécialistes, il y a les archéométries, il y a l'archéologie, etc., etc. Donc effectivement, ce sont des gens qui ont l'habitude de se côtoyer, mais pas toujours, enfin, et qui croient que... Enfin bon, il y a plein d'a priori, de connaissances mutuelles qui pourraient effectivement être révisées à la lecture de ce bouquin, éventuellement. Donc c'est vrai que le développement d'outils statistiques pour parler de la datation... parce que je crois être spécialiste de la datation. Les développements statistiques récents, depuis les années 2000, ou même avant, mais disons que ça apparaît beaucoup plus maintenant avec les outils de calcul dont on dispose, font qu'un peu à peu, on est amené à changer la stratégie d'échantillonnage pour dater. On ne travaille plus sur un moment intéressant, on travaille sur des séquences pour coincer justement le moment intéressant dans une stratigraphie, donc dans des contraintes temporelles qui permettent de réduire les intervalles de confiance. Et effectivement, toute une démarche, c'est une autre démarche hein, qui apparaît progressivement, où l'objet daté n'est pas un objet, mais quelque chose qui s'insère dans un ensemble. Donc c'est beaucoup plus global et beaucoup plus complexe que le seul mot datation qu'on entend souvent. Il fait de la datation, bon c'est facile, il y a un chiffre avec un écart type et puis basta quoi. Mais non, ça se démarre sur le terrain, ça démarre effectivement au niveau du dialogue, si on peut dire comme ça, avec l'archéologue, si on peut encore appeler un archéologue, etc. etc. Donc en fait, l'idée c'est un peu de fusionner un peu toutes nos connaissances, enfin de tenter de le faire, et pour essayer d'optimiser notre travail. En gros, c'est ça.
Moi, je suis assez d'accord avec cette vision des choses, quoi. Je pense que justement, le fait d'une certaine manière d'entrer par deux éléments, va permettre à un moment donné de coordonner et d'amener ces discussions et de pointer ces discussions et l'importance de ces discussions. On en parlait hier avec Xavier et Hélène rapidement sur les questions d'interdisciplinarité où justement il y a tout un ensemble de connaissances, d'évolutions justement dans les types de stratégies, etc. Et dont on se rend compte pour repartir avec certains autres collectifs, que tout ça, d'une certaine manière, ça se perd. Ça se perd parce qu'une fois que le collectif interdisciplinaire n'est plus là, et du coup, ça, c'est rarement mis en valeur, quoi, justement, ce dialogue qui permet de faire progresser, de faire évoluer, d'une certaine manière, les pratiques. Que ce soit les pratiques d'un côté des archéologues ou que ce soit, du coup, les pratiques des statisticiens qui se disent « Ah oui, finalement, le problème est plus compliqué que ce que j'imaginais au départ. C'est typiquement ce que disait Serge tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire rechercher, même si on va repartir sur des choses effectivement peut-être plus classiques, mais du coup pas les mobiliser exactement de la même manière. Je sais que nous, cette expérience, on l'a eue par exemple avec les gens, enfin des physiciens aussi en télédétection. Parce que du coup, quand on s'est approprié un certain nombre de choses, on a revu notre façon de concevoir les choses, mais aussi on a apporté des nouvelles manières de mobiliser des outils que, alors, au début, ils nous regardaient bizarrement, quoi. Ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. Et après, voilà, effectivement, ils se disaient « Ah, mais oui !» parce qu'ils n'avaient jamais envisagé les choses dans cette perspective-là. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans ce dialogue à double entrée. Et je ne suis pas sûre qu'on l'ait si on a quelque chose de très linéaire avec une démarche bien établie sur un exemple donné.
Juste pour reprendre, parce que je pense qu'on tourne autour de ça, c'est-à-dire, moi ce que je vois, alors je suis chercheur, hein, donc je n'enseigne pas beaucoup, j'ai des stagiaires de temps en temps. Je vois arriver des stagiaires, et mes stagiaires, c'est des stagiaires qui font des formations de maths, quoi, grosso modo, on va dire, ce qui s'appelle les data science. Excusez-moi. Mais je les vois arriver, et puis ce qu'ils veulent, c'est appliquer des méthodes. Les dernières, quoi. Donc, Fourier aléatoire, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis, moi, je passe mon temps à leur dire, non, mais c'est bien gentil, mais il faut que tu choisisses la bonne distance, quoi. Et ça, pour moi, je vois, je n'ai pas encore eu trouvé de manuel de stats qui parle de ça, en fait. C'est-à-dire, la stat, c'est quand même une intersection de résultats théoriques et en partie aussi, hein, enfin, le praticien statisticien, c'est l'intersection avec le réel. Et il y a ce travail de liaison, et pour moi, c'est ça ce que ça peut apporter dans une formation de stat, quelque chose. Je ne connais pas de bons livres là-dessus, en fait. Alors, je ne connais pas beaucoup de livres, on va dire. Donc peut-être qu'il y en a, peut-être que quelqu'un qui forme en stat connaît des bons livres qui permettent de bien mettre en relation le réel avec les différentes formalisations mathématiques qu'il peut avoir. Effectivement, pour moi, c'est ça ce qui pourrait être intéressant. Alors, ça ne sera pas l'ensemble du bouquin, ça ne sera pas un bouquin, mais ça sera un bouquin où éventuellement un enseignant en stat qui a envie de poser ce genre de questions aurait déjà des exemples qui montreraient vraiment ça, quoi. Et pas des exemples jouets, quoi. Enfin, des exemples de la vie réelle où éventuellement on traiterait un petit peu de ça. Par rapport à la double entrée, moi, je sais pas si c'est indispensable, mais après, c'est vrai que j'ai un peu peur que la simple entrée donne à voir une espèce de bijection entre une méthode et une problématique.
Ce serait peut-être bien que les archéologues interviennent plus, parce que sinon, là, il y a un petit discours entre statisticiens, je commence à être un peu... Voilà. Donc je pense que si vous pouviez intervenir, ça serait sympa.
Oui, dites aussi, c'est vous qui êtes... Enfin, vous, en fait.
Alors, j'interviens... je ne sais pas si je suis très représentative des archéologues, mais enfin, vous... Alors, j'intervenais pas jusqu'à présent parce que j'écoutais les échanges, j'essayais de savoir justement comment je pourrais contribuer à ces échanges. Alors, moi, j'entends quelque chose avec laquelle je suis d'accord, c'est l'interdisciplinarité et le fait que finalement, enfin, il a été dit à plusieurs reprises qu'il fallait poser la problématique ensemble, finalement. C'était pas forcément l'archéologue qui arrivait avec son tableau de données, qui donnait ça aux statisticiens et qu'on expliquait quelque chose et qu'il fallait se retrouver même avant le travail d'interprétation. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec cette démarche. Simplement, ça veut dire que dans le cadre d'un manuel, le message qu'on fait passer, c'est au niveau des archéologues, c'est trouvez-vous un statisticien avec lequel travailler dès la collecte des données. Et dans ce cas-là, ça colle plus trop avec l'idée d'un manuel qui évoque l'idée de pouvoir se débrouiller tout seul avec son livre. Enfin, j'entends un peu ça. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être pas un manuel, il ne faut peut-être pas l'appeler manuel. J'en sais rien, parce que pour le coup, je trouve que l'approche interdisciplinaire, où on traiterait, par exemple, on partirait d'exemples archéologiques très précis, de cas très précis, traités par un archéologue et un statisticien de A à Z, moi ça me semble très intéressant. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Après, c'est toute la question de la difficulté de, comme le disait Philippe au début, de savoir à quel public on s'adresse. Et si on s'adresse à deux publics différents, c'est-à-dire d'un côté des archéologues, de l'autre des statisticiens, forcément on ne va pas pouvoir combler les mêmes problèmes d'un côté comme de l'autre. Donc après, je ne sais pas dans quelle mesure on peut trouver un... Alors la double entrée, là, outil archéo, je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je me dis qu'on peut peut-être trouver effectivement une... Enfin, mettre en place deux niveaux de lecture ou plusieurs niveaux de lecture qui reviendraient à dire, bon, bah, à partir d'un exemple, en gros, les archéologues, vous arrêtez là, parce qu'après, ils ne vous suivez plus, et c'est plus pour les statisticiens qui voudraient ouvrir vers d'autres nouvelles méthodes. Enfin, sachant que j'y connais pas grand-chose à la statistique, à part ce dont on a parlé ce matin. Je ne sais pas. Après, ça, c'est très théorique. Je ne sais pas si c'est réalisable de trouver comme ça deux niveaux de lecture différents, un qui serait davantage tourné vers les archéologues et les besoins qu'ils rencontrent, et rester donc dans quelque chose de très compréhensible et en même temps qui répond à leurs attentes, parce que malgré tout, en tout cas pour ce qu'on voit nous en archéologie préventive à l'échelle de l'opération, on retombe quand même plus ou moins malgré tout sur des problématiques un peu similaires. Là, tu confirmes, ouais. Voilà, c'est pas ou des sites, enfin, des opérations qui fournissent des données vraiment très exceptionnelles et qui permettent de mettre en œuvre des choses, c'est quand même très marginal. Voilà, donc on va retomber quand même. Nous, on a tout le temps un peu le même type de besoins qui sont exprimés. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait y répondre, baliser, et puis après, voir dans quelle mesure ça peut ouvrir, et ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, mais voir dans quelle mesure ça peut ouvrir des perspectives plus pour les statisticiens. Offrir donc un socle, donc en partant de ces exemples très précis, et voir comment on peut ouvrir les besoins des statistiques.
Je vais me poser en archéologue, là, en archéologue pour rebondir sur ce que tu dis. On pourrait imaginer peut-être des entrées. Nous, on a beaucoup travaillé en interdisciplinarité en céramologie, on a travaillé sur des grands nombres de données, on a travaillé avec l'analyse. Des correspondances, avec un modèle de régression, etc. Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer une thématique, je prends celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, une thématique où on entre par la céramique, par exemple, pour la datation, donc on a une problématique archéologique qui se déroule, et puis une autre entrée pour répondre à ta question, qui serait les outils, l'autre entrée qui serait on entre par l'analyse factorielle, donc on propose de réfléchir, de présenter ce qu'est l'analyse factorielle, et puis ensuite de présenter ce qu'est un modèle linéaire, à quoi il peut servir, et là on a un peu une double entrée. Est-ce que c'était ça, je te regarde là en même temps, est-ce que c'était cette double entrée, c'était aussi celle-là, ou est-ce que c'est c'était pas du tout ça, de montrer que tu proposes.
C'était ça, hein. Franchement. C'était pas une proposition personnelle, je n'avais aucun problème.
Ce que je disais,
c'est que moi, les bouquins que j'ai lus qui étaient très appliqués en stat, il y a ceux qui ont effectivement ce modèle un peu double entrée et qui, quand même, donnent à voir qu'il y a une démarche autant dans. Pour les thématiciens, pour les statisticiens, et que on peut pas toujours répondre à une question de datation avec tel outil de statistique, et un problème de provenance ne veut pas dire forcément tel outil de statistique. Donc ça, c'est le premier truc. Après, je pense qu'effectivement, éventuellement, c'est intéressant de voir que, par exemple, une méthode donnée qui serait une classification hiérarchique ne va pas donner les mêmes résultats du tout suivant la distance qu'on prend, et que du coup, je pense que ça, c'est intéressant à voir aussi pour le statisticien autant que pour l'archéologue. C'est-à-dire que de comprendre que, in fine, c'est pas tant de savoir quel est l'outil qu'il va utiliser que comment il va l'utiliser, et on revient à la fin de la présentation précédente. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'avoir une démarche Et voilà. Et cette démarche, elle se construit des deux côtés. Et si chacun va vers l'autre, c'est pas du tout les mêmes chemins. Ça, on est d'accord. Après, je sais pas si là, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas du tout si cette double entrée. Alors, pour l'histoire, c'est-à-dire, tu dis que ces deux bouquins, c'était deux parties. Donc, oui, dans une certaine mesure, ça fait deux plus petits bouquins, quoi, presque. Non, mais c'est vrai. Hein, c'était comme ça que c'était à peu près là où on en était il y a la dernière fois qu'on en a discuté. Donc, c'est voilà. Donc, c'est pas totalement isomorphe, mais c'est pas très très différent non plus.
Juste pour intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit, on est toujours dans une perspective, et quand on parle de manuel, on est toujours dans une perspective très linéaire. Et en fait, des premières discussions qu'on a eues, c'était quel est le support qu'on va adopter. Et on est contraint d'adopter un support de publication parce que c'est lié à Cairn, etc. Mais, enfin, au contrat avec l'éditeur. Mais dans l'idéal, on était parti sur quelque chose qui était, beaucoup plus... qui était numérique et qui était beaucoup plus circulaire. Et moi, je trouve, ce que je trouve très intéressant dans les échanges qu'il peut y avoir, justement, c'est pas juste on a un problème, il y a des manières classiques d'y répondre, on va y répondre, puis on explique aux gens comment on va faire, et puis ils vont reproduire la même chose, etc. Ce qui est aussi intéressant dans ce travail interdisciplinaire, c'est exactement ce que Pierre a dit tout à l'heure. C'est, à un moment donné, la vision selon une autre perspective, effectivement, ben je change la distance, ça me donne des résultats différents. Mais ça me donne des résultats différents, et du coup, ça me fait re-réfléchir sur mes propres stratégies, ne serait-ce que de collecte, mais aussi de conception des objets. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'effectivement, tant qu'on restera dans quelque chose de très linéaire, c'est pour ça que j'ai dit d'emblée, je pense que ça peut pas s'adresser à des étudiants de L2 ou L3 par exemple, et qu'il faut avoir des gens qui sont déjà impliqués dans le processus de recherche d'une certaine manière. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi utiliser l'outil statistique, non pas seulement pour faire des analyses et avoir des résultats à interpréter, mais l'utiliser comme un outil de réflexion. Et je pense que ça, c'est vraiment... c'est vraiment intéressant du point de vue des deux communautés, pour le coup, et y compris des statisticiens, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être, entre guillemets, prestataire de service en amenant des techniques déjà éprouvées et puis sans plus de questionnements.
C'était juste pour aller dans le... C'est bien que tu aies précisé, c'était aussi pour répondre. Je pense qu'il ne faut pas voir... C'est quand même un même objet sur lequel il va y avoir deux regards. Donc l'idée n'est pas qu'à un moment donné, c'est laissé pour les statisticiens, et à un moment donné, et pour aller dans le même sens, c'est l'idée de se dire qu'il y a des choses mécaniques, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui ne fonctionnent pas de la même manière selon les données sur lesquelles ça s'appuie. Et nous, on rencontre ça. Alors, moi, je vais prendre plutôt des exemples en analyse spatiale où il y a beaucoup de presse-boutons, il y a beaucoup de... En ce moment, on fait du clustering à tout vent. Et en fait, si on ne ramène pas les paramètres à des logiques de fonctionnement réelles, et donc en archéologie, on en connaît beaucoup, et bien ces paramètres-là, un statisticien, il y a quelque chose d'assez naturel chez lui, mais il ne va pas pouvoir ramener ça forcément. La granularité, il sait ce que c'est, mais par contre, la granularité relativement à un fonctionnement, ça va l'éclairer tout d'un coup, et ça va peut-être le stimuler pour vous poser d'autres questions. Et je voulais juste donner juste pour avoir, par rapport à ces ouvrages qui sont plus outils. Il y a un ouvrage auquel j'ai un peu contribué, donc je le connais bien, qui est l'analyse spatiale en géographie, qui a une entrée complètement différente, qui rentre par les concepts en géographie et quelles sont les formalisations qui vont pouvoir éclairer, aller chercher ces concepts-là. Et donc, moi, il me semble qu'il faut vraiment rentrer par les questions de l'archéologie. Et là, il y a eu une ribambelle d'exemples qui montrent que déjà, il y a des boîtes qui ont été ouvertes, et en ouvrant ces boîtes, on voit que là, effectivement, au bout du bout, il y a les outils statistiques, et que ces outils statistiques, il faut leur redonner du sens dans des contextes.
Et puis peut-être, avant d'aborder les outils statistiques de manière un peu originale, il faut les appliquer aussi de manière classique, quoi. Enfin, comme dans toute discipline, on commence par faire quelque chose de classique. Une fois qu'on maîtrise ce qui est bien classique, on est capable de se dire « Ben oui, je peux faire quelque chose d'un peu plus original, utiliser une distance différente, etc. » Il n'y a que quand on connaît un peu le cadre, je dirais, classique, balisé.
Il faut hiérarchiser peut-être les choses. Après, c'est un outil à construire.
Si je pense au bouquin d'Anaïs Pascal, qui est quand même, je pense, beaucoup lu par des licences maîtrises, il y a des outils statistiques forts là-dedans. Il y a le poisson, il y a le pain. Mais c'est jamais expliqué en tant que tel. Après, il peut y avoir des renvois, il peut y avoir des encadrés, il peut y avoir des annexes avec les boîtes à outils de base. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et là, je rejoins peut-être le côté... faut que nous, ça nous intéresse. C'est vrai qu'aller refaire un ouvrage sur ce que c'est que la moyenne, l'écart type... Par contre, aller faire un ouvrage où on dit la richesse de ces tout petits outils dans des cadres complètement différents, de ce que l'exemple là tout à l'heure de la moyenne, les différents calculs de moyenne dans plein de... Mais on va pas aller... Enfin, il me semble que là, on va vite s'ennuyer, on va être beaucoup à vite s'ennuyer si on reprend la boîte à outils un par un, comme c'est fait dans plein de... Non, je sais que c'était pas ça le but, mais dans les deux entrées, il y a quand même le risque de repartir.
Oui, c'est ça. Je pense que quand on a évoqué le concept des deux entrées, c'est qu'on voulait retrouver les deux informations, les deux mondes. Et ce qu'a évoqué un petit peu Philippe, et ce qu'on discute dans le groupe depuis quelques mois, c'est cette idée de pop-up, là, d'encadrer. Et ça fonctionne très bien, parce que ça ne détruit pas notre texte. On raconte notre histoire, on part de notre problématique archéologique, de des matériaux qu'on veut étudier ou des questions qu'on veut pousser. Donc là, on peut raconter notre histoire. Et finalement, les outils, les concepts statistiques peuvent exister de façon à même flotter dans notre texte et pas se rapporter uniquement à l'endroit où on le place. C'est ça l'avantage de faire ces encadrés, ces sections qui flottent. C'est qu'à un moment, on va avoir besoin, même dans notre propos archéologique, de préciser le concept. Mais le concept qu'on va préciser, il va pouvoir peut-être se retrouver aussi dans un autre chapitre. Donc peut-être que ces encarts qui vont exister dans le texte, ils vont être renvoyés à différents moments. Je ne sais pas si...
Non, mais après, c'est vrai que la manière dont on avait pensé le manuel, quand on parle de l'entrée avec l'entrée stat, et c'est vrai que je pense que l'entrée stat, peut-être démarche, une méthodologie aussi de travail du point de vue des stats, effectivement, elle peut peut-être pensée différemment par rapport à ce qui avait été mis un peu sur papier à l'époque. Il y a peut-être un travail à refaire sur ça, en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de ce que tu... est-ce qu'il ne faudrait pas saisir, en fait, l'idée que tu proposais tout à l'heure, Laure, à savoir de partir de la fin et travailler sur ces notions de stats à partir de ces graphes, plutôt que de proposer effectivement, comme ça a été pensé, voilà, différentes parties avec les outils stats qui permettent.
Je ne pensais pas forcément à ce type d'entrée-là, parce que ce que je disais, c'était par rapport dans le plan de l'ouvrage tel qu'il avait été, mais c'est à nouveau, hein, on a vraiment posé une première proposition pour essayer de contacter des auteurs, pour mettre les choses en place. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de définir le cahier des charges. Donc je dirais qu'à la limite, si ça saute dans la discussion des deux jours, c'est pas très grave. Ça peut justement être remodelé. Mais si je rappelle ce qu'on avait un peu imaginé au départ, c'était effectivement un premier chapitre qui était une entrée en matière. Et donc c'est là-dessus où j'attirais l'attention sur le fait que c'est peut-être dans ce premier chapitre qu'il faut tout de suite poser le problème du dialogue interdisciplinaire, qui peut se poser effectivement en prenant un cas très concret d'interprétation avec deux regards différents, comme disait Hélène, on regarde un même objet mais avec deux regards différents, et qui du coup peut renvoyer sur aussi comment je définis les questions. Et du coup, ça peut être des exemples qui peuvent être le début, la fin, et montrer comment du coup le dialogue interdisciplinaire est nécessaire pour justement à la fois bien interpréter, puis aussi bien, enfin, que du coup l'interdisciplinarité, elle est quand même assez prégnante tout le temps. Ce qui ne veut pas dire, quand on dit interdisciplinarité, ça ne veut pas dire qu'il faut être en binôme constant, c'est qu'on apprend l'un l'autre et qu'à un moment donné, il y a quand même des phases d'autonomisation, si j'ose dire, et qu'effectivement, si on a appris à mettre les mains dans le cambouis, on peut faire nos petits tests tout seul, puis revenir après vers le statisticien pour rediscuter, etc. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est forcément marié à un statisticien ou à un archéologue pour le restant de sa vie professionnelle, quoi. Mais on peut aussi, c'est possible aussi, ça arrive des fois. Non mais voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de généraliser ce type de configuration pour faire avancer la science. Mais par contre, voilà, effectivement, de réinsister sur ce dialogue. Et puis après, il y avait deux entrées et les encarts. Et donc, il y avait l'entrée par la...
qui sont censées être différentes.
L'entrée par la thématique était plutôt l'entrée par les problématiques du point de vue de l'archéologue. Et l'entrée par la statistique, qui effectivement devait être rediscutée, revue... Serge avait fait un premier truc, mais il n'y avait pas vraiment de consensus encore sur cette partie 2, me semble-t-il. Voilà. Et qui était plutôt de rentrer justement par la perspective... du statisticien ou du mathématicien qui, lui, se dit, ce que je veux savoir, c'est finalement quelles sont les distances les mieux appropriées pour les différents types de questionnements, etc. Et du coup, c'est juste à un moment donné que ces parties, elles vont dialoguer entre elles, et y compris via les encarts. C'est ce qu'on a... Enfin, je retranscris juste ce dont on avait parlé, hein. J'ai pas de... Mais après, c'est effectivement, c'est la difficulté, c'est comment on articule les choses. Et c'est pour ça qu'on avait dit, il faut absolument cette journée pour pouvoir discuter de la manière dont ça peut s'articuler.
Et toi, Serge, quand tu parles de l'intersection avec le réel, par réel, qu'est-ce que tu entends, à savoir la question de l'échantillonnage, de la particularité des corpus aussi à disposition, de l'objectif, en fait, fixé à atteindre, enfin, qu'est-ce que tu englobes, en fait, dans le réel?
Alors, dans le réel, c'est que en tant que matheux, je vais prendre un exemple de maths, mais quand on prend un manuel de stats, par exemple, qui parle de l'analyse en composantes principales, ce qui va être développé, c'est le fait qu'on fait une analyse en composantes principales sans très réduite. Et dans le meilleur des cas, le texte va décrire un tout petit peu le fait que, bon, on réduit pas. Et en général, on ne demande pas si on centre ou on centre pas, on centre point. Et n'est pas développé le lien avec la nature intrinsèque des données qui fait qu'il faut ou pas. Enfin, ça correspond à quoi de centrer? Ça correspond à quoi physiquement? Enfin, physiquement, parce que. Moi, je fais des stats avec des gens qui font de la physico-chimie, mais ça correspond à quoi de centrer? Ça correspond à quoi de dire qu'on fait du centré réduit? Et ça, ben, mathématiquement, on peut le décrire 25 000 fois, mais ça n'aidera pas ni le statisticien praticien qui se forme, ni l'archéologue, à décider si dans son cas précis, c'est plus pertinent de faire du centré réduit, de faire du centré tout court, de faire du rien du tout, quoi. Et c'est dans cette contrainte-là, elle est extérieure à la partie mathématique. C'est la contrainte de l'application. Et c'est ça ce qu'il faut apprendre.
Il n'est pas extérieur à la partie mathématique.
Non, c'est une traduction, si tu veux. Pour moi, c'est une traduction de la contrainte extérieure à l'application pour que les résultats soient le plus pertinent possible, étant donné ce que fait une ACP et étant donné la problématique qu'on se pose. Voilà. Donc, typiquement, moi, par exemple, j'ai des chimiométristes qui s'amusent à faire des ACP centré réduite. C'est très, très, très rigolo. Un spec, c'est strictement positif. Donc, déjà, centré, c'est un petit peu tordu, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Réduite, c'est complètement absurde parce qu'il y a des parties du spec qui sont strictement non informatives. Donc, mettre la variance de cette partie-là à 1, c'est artificiellement dire que là où j'ai énormément de bruit, j'ai la même quantité d'informations qu'à un endroit qui correspond à des pics spécifiques à certaines espèces. Pourquoi ils font ça? Parce que le bouton, il dit à centré réduit, qu'ils ont lu un bouquin de statistiques qui dit le plus simple, c'est de faire du centré réduit. Parce qu'effectivement, si on fait une ACP sur quelque chose d'hétérogène, mais là, c'est un spectre, c'est pas hétérogène, c'est homogène. Donc pourquoi on réduit? Mais ils se sont pas posé la question. Et je dis ça, j'ai pris l'exemple de cet exemple-là. Le fait est que les étudiants à qui je fais des petits modules dans Data Science,
ils se sont même pas posé la question. Pour eux, ils ont dit, ah ben voilà, alors, pour simplifier, on réduit toutes les variances à 1, là, toutes les variables variances à 1. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, physiquement ? Et ça, enfin, ça veut pas physiquement, mais par rapport au problème qu'on se pose. Et ça, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des bouquins qui l'amènent, mais...
C'est... Si, dans le bouquin de Marie, c'est écrit,
non, mais...
le bouquin Gilbert, ça contacte tous les bouquins, on parle d'ACP centré, ACP centré réduite...
Oui, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, bien sûr qu'ils parlent toutes de centré réduite, ils disent pas à quoi ça correspond comme réalité. Pas tous, je connais pas le livre en question, donc je l'ai pas lu, j'ai pas dit qu'il y en avait pas, mais il y en a beaucoup qui passent là-dessus très très rapidement, parce que mathématiquement c'est pas très intéressant, c'est une opération, voilà.
Je dirais que les bouquins de statistiques appliquées, ça va de soi, si on fait un bouquin de statistiques appliquées, au moins de dire quelle est la différence entre une ACP centrée et une ACP, ce qu'on appelle une ACP nulle. Et quel est l'avantage de faire l'une ou l'autre, ou si on ne sait pas quoi faire entre l'une et l'autre, de tenter de regarder l'image qu'on arrive le mieux à interpréter. Mais que ça fasse partie d'un bouquin d'archéologie, je le conçois tout à fait. Mais en fait, ça me ramène à la question, qu'est-ce qu'on met dedans ? Est-ce que ça, c'est vraiment de la recherche ? Est-ce que c'est, enfin, comment on gère la manière de mettre l'information ? C'est pas ça.
Comment on approche cette information dans le cadre du livre, jusqu'au moment, parce que là c'est un cas précis, ouais. Et il va y en avoir des milliers.
C'est un cas d'exemple.
Oui, mais, oui, mais tu te rends compte, si chacun a un cas d'exemple comme ça, là, pour archéologue, je vais regarder le livre et puis je vais l'avoir fait avant en disant moi j'ai 15 méthodes possibles pour ça, pour la question. Puis j'en
sur des cas pratiques.
Donc il faut arriver à hiérarchiser. Enfin, je pense que l'idée c'est d'arriver à hiérarchiser. Il faudrait une entrée en.
Moi, sérieusement, je ne vois pas comment hiérarchise. C'est le diable est dans les détails. Et là, honnêtement, moi, si on ne se pose pas la question, si quelqu'un vient et me dit j'ai fait une ACP, t'as pris laquelle ? Bah, j'ai pris celle qui me donnait les résultats qui étaient plus proches de ce que j'attends.
Oui, ça, je suis
bravo.
D'accord.
Enfin, voilà.
Mais je veux dire par là, quels sont les outils, jusqu'où on va dans le détail, parce que dans ce cas-là, on peut dire pour l'archéologie de la même manière, si on a une couche d'occupation, on ne va pas la faire de la même manière, si on a un niveau, si on a un remblai, on ne va pas le traiter. Alors moi, je vais t'en sortir des tonnes en archéologie de ce genre de raisonnement-là, mais ça ne fait plus un livre, ça fait une liste à la Prévert pour finir. Donc c'est savoir, est-ce qu'on est capable de... j'espère, c'est pas une critique hein, de fond, c'est simplement comment construire où chacun voit ce, par le petit bout de la lorgnette ce qui lui semble intéressant. Je dis pas que c'est pas faisable, mais il faut que ça reste didactique si c'est un manuel. Si c'est un manuel, il faut que ça reste accessible.
S'il y a un exemple où il y a une ACP, c'est une question fondamentale.
C'est plus où tu mets l'exemple, est-ce que tu fais un chapitre sur l'ACP.
Mais on est bien sur encore une fois, sur ces
on est vraiment sur la problématique, c'est-à-dire pour nous, alors je sais pas si c'est deux parties ou si c'est juste des index croisés, mais si tu veux, quand tu parles de l'origine, par exemple, on est dans un cas d'origine, tu as des majeurs, des traces et des mineurs, on va pas s'amuser à détailler à cet endroit-là que, étant donné, enfin, que voilà les 25 types d'ACP, enfin même pas les 3 types d'ACP, grosso modo, et que, étant donné les 3 types, celui-là est bien, celui-là est pas bien, etc., c'est pas là. Mais en revanche, il y a un moment où la personne va se poser la question, moi, a priori, je vais faire une ACP qui ne correspond pas à de l'origine. Et donc là, il va se demander, alors dans le pire des cas, il va avoir les 3 boutons, toc toc toc, il va se dire alors laquelle je prends. Il faut qu'il y ait un endroit où il puisse lire aussi de façon compacte, quoi, voilà quoi correspondent à peu près les 3 options que vous avez. Et c'est dans cette mesure-là qu'on a, et c'est la complexité, hein, c'est-à-dire on a besoin d'avoir une lecture par problématique au sens de l'archéologie, on a besoin d'avoir une lecture où à un moment donné on se dit, bah voilà, a priori par rapport à ce que j'ai vu, je vais utiliser tel outil, quelles sont les variantes de l'outil, alors on ne va pas aller dans les détails très très précis, mais les grandes variantes qui existent et à quoi elles correspondent, quoi, comme
Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un ouvrage qui fait appel à un logiciel libre ?
Voilà, il faut voir aussi sur une interface ce serait intéressant.
Et oui, parce qu'en fait, moi, je te montre très simplement quels différents types d'ACP on peut faire en prenant une fonction type 2D.pca ou FactoMiner, et puis tu as scale false true, center false
true.
Mais
c'est pas la problématique, c'est un problème de démarche. C'est pas un problème de savoir. En l'occurrence, moi, si tant est que j'écris cette partie implémentation, je le ferai en R parce que c'est comme ça que j'écris, mais c'est à la limite, c'est dans la démarche. C'est pas tellement de dire tu mets ça true ou false. C'est grosso modo, si tu veux, tous les packages qui proposent de la PCA proposent de la PCA tout court. En fait, par défaut, te propose de la normer. Si tu touches à rien, ça te la fait normer. Tu peux l'avoir centrée et dans la majorité des trucs à peu près corrects, tu peux même ne la faire pas centrer. Mais à chaque fois, c'est des options. À la limite, ce qui est important, c'est vraiment la démarcher. Par rapport à mon problème, j'utilise laquelle ? Et donc, il faut pas qu'il soit obligé de lire la datation pour comprendre ce que c'est la normée, la provenance pour comprendre ce que c'est que la centrée, et puis là, je sais pas quoi, pour comprendre ce que c'est que la...
Oui, on est bien d'accord.
Voilà. Donc, ouais, il faut qu'il y ait un endroit compact où il y ait tout ça ensemble. Ouais. Ouais. Mais ça sera pas dans la datation.
Ouais, non, mais ça, je suis bien d'accord.
D'accord, non, mais...
Ok, ça me semble... Oui, c'est ce que je voulais... Oui, il faut... Oui. C'est quelque chose où on retrouve quand même un minimum d'informations, sinon l'archéologue va être complètement
ennuyé. Il faut que ça soit circonscrit. Ah oui. Non, mais c'est pas...
Comment on peut en sortir comme ça?
Je vais parler sans micro. Par expérience quand même, je vois bien que vous êtes très tenté, moi aussi, je l'ai longtemps été, par la déconstruction. Et faire un choix, c'est déconstruire complètement l'outil pour pouvoir le réinvestir et se l'approprier. Je sais aussi que les archéologues praticiens vont être nécessairement perturbés par une déconstruction qui risque d'être maximale. Au final, ils vont dire, mais finalement, laquelle je vais prendre? Parce que aller au niveau de réflexion qui est le vôtre, qui est peut-être le mien, assurément celui de ceux qui ont un petit bagage statistique, c'est aller quand même un petit peu au-delà de ce que de la pratique. Des archéologues, même des archéologues qui sont sensibles à ce point. Donc, ça ne va pas être facile, à mon avis, d'articuler cette déconstruction totale. Finalement, tout peut être interrogé, et je suis d'accord, le choix de la distance, c'est quand même, pour un statisticien, le vœu à bas et tout part de là. Mais pour un utilisateur, si on lui dit, ah bah oui, il y a 40 distances, on peut...
Il va venir par
choisir ce qui
propose l'objet le plus intéressant pour lui.
Bon courage, parce que c'est presque quand même un autre ouvrage. Et je suis d'accord, hein, pour que le statisticien trouve son compte. Oui, sans doute, c'est la bonne entrée. Mais j'aurais presque une proposition. Est-ce que vous pourriez partir ou terminer par un problème qui n'aurait pas de solution, auquel le statisticien ne pourrait pas apporter de solution? Est-ce qu'il y a un corpus de données, archéo, et voilà, le corpus intéresse l'archéo, il a une problématique, et le statisticien, ben, il n'a pas de réponse. Il ne sait pas trancher, parce que quand il change de distance, c'est trop sensible. Voilà. Et sans doute, si on cherche, on va en trouver des exemples. Voilà. Et ça, c'est un angle d'entrée qui va dans ce qui me semble être le sens qui est celui que vous voudriez privilégier, si j'ai bien compris.
Oui, non, enfin, en fait, ça complète un peu tout ça. Non, la question que j'avais envie de poser, que j'ai essayé de poser, parce que c'est clair, là, pour revenir au choix de distance, etc., effectivement, nous, dans le bouquin, on parle de toutes les distances qu'il peut y avoir dans la classification, etc. Mais en insistant, on a quand même insisté sur la méthode fondamentale. Alors, certes, je ne connais pas les données d'archéo, mais une méthode qui est, ce que je disais, qui est facile et qui est simple, par laquelle on entre, et ensuite, dans le livre, on a effectivement toute une série de la CP centrée réduite, non centrée réduite, on en parle, mais sachant que les centrées réduites, pour la plupart des données socio-économiques, elles sont modes, ça marche bien, quoi. Donc l'idée, c'est de rentrer quand même dans quelque chose qui soit facile, où il y a un consensus qui est fait, et puis rien n'empêche qu'il y a des... c'est même pas des mises en garde, c'est des cas où, voilà, et ben, ça amène à réfléchir.
Moi, j'ai exactement ce problème, c'est-à-dire que l'ouvrage de référence, c'est socio-économique. La majorité des données que je vois ne sont pas du tout dans ce cadre-là, c'est-à-dire que socio-économique hétérogène. La majorité des données que moi j'ai dû traiter dans des cadres de collaboration avec des archéologues étaient des données homogènes. Où la problématique typiquement de la normalisation de la CPU de ce qu'on veut, était une vraie problématique. Et les collègues les mieux, les plus intéressés, on va dire, qui ont essayé de se former eux-mêmes, ont pris des bouquins côté SHS, donc socio-économique, où effectivement, on a typiquement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'a priori, dans la majorité des cas, on est sur des trucs hétérogènes, on fait du Norvège. Mais pas de chance, à l'occurrence. Là, en archéo, enfin moi, en tout cas, les problèmes que j'ai eus, souvent, c'est pas ça.
Non, mais ça n'empêche qu'on en parle quand même dans les bouquins. Enfin, on parle quand même du fait qu'il y a des assez. Enfin, il y a effectivement la possibilité de passer en prêt de pas réduit. Oui. Ne serait-ce que quand on fait certaines formes d'analyse, on ne centre pas et on ne réduit pas. Donc ça, on en parle, mais en pointant quand même. Et c'est moi là, parce que je ne connais pas du tout donc, la stat en archéo, mais c'est savoir quelles sont les méthodes, voilà, les méthodes de base à enseigner. Voilà, parce qu'on passe par là, quoi. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut cibler. Rien n'empêche après de dire, il y a des choses plus... Mais c'est... Ou alors, vous faites un bouquin pour vous, un bouquin pour des chercheurs, et ça, c'est autre chose.
Mais moi, je pense que c'est pas du tout pareil de pointer, de lister, avec une entrée mathématique qui est entendable par un ensemble de gens, et que de le montrer concrètement... en donnant les effets d'interprétation, en allant jusqu'aux effets d'interprétation.
On est d'accord, mais pour le coup, vous allez vous retrouver avec une encyclopédie.
Mais est-ce que c'est le but, c'est de faire quelque chose d'exhaustif? Est-ce que le but, c'est pas de dire, attention, dans les boîtes, il y a des paramètres,
On est entièrement d'accord, mais après, est-ce que c'est effectivement le logiciel? Moi, je ne sais pas quels sont les outils qui sont un passage obligé, pas obligé, parce qu'on n'est obligé à rien, mais quels sont les outils standards que vous utilisez? Je ne les connais pas, et je pense que pour rentrer, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a quand même des étudiants qui sont assez réfractaires. C'est comment s'y prendre déjà sur le B.A.B.A. et ensuite à vous de savoir, est-ce que c'est une entrée? Je pense que l'entrée thématique est certainement la meilleure pour... approcher au stade, mais c'est aussi tout ça qu'il faut réfléchir, c'est à la fois le choix, c'est pas le choix des méthodes, parce que je suis d'accord qu'on peut présenter une méthode et montrer aussi toutes les formes d'utilisation en fonction des paramètres et des choix qu'on fait, mais il faut quand même se mettre d'accord sur, je sais pas quelles sont les...
Je pense que comme la journée doit se terminer, je vais me servir de vos mots pour peut-être conclure cette table ronde, et je pense qu'on est, si on sort les mots-clés, on est tous d'accord que de toute façon, une chose est sûre, on ne pourra pas être exhaustif. Ça, c'est évident. Que ce soit l'archéologie appliquée, les statistiques appliquées, l'archéologie aux statistiques, les statistiques à l'archéologie, quoi qu'il arrive, il faudra faire des choix. Et ces choix, on sent qu'ils commencent à se dessiner. Donc, l'exhaustivité, non. Par contre, je crois que ce que l'on va devoir sortir, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie, un type d'approche, un type de raisonnement qu'on peut poser sur nos objets. Voilà, je crois que abandonnons l'idée de pouvoir tout traiter parce qu'on ne pourra pas le faire. Par contre, quel type d'approche, quel type de regard, quel type de prudence on peut avoir? Voilà, je crois que déjà, si on arrive à répondre à ce type de questionnement, ça sera déjà pas mal. En tout cas, tout le GT2 de Cairn vous remercie d'avoir participé à cette journée de réflexion. Donc nous, dans le cadre donc, du groupe de travail, on continue, on se servira de toutes ces discussions, de tous ces échanges, et encore merci à tous.
Merci voilà. Beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.